On continue l'étude sur l'Église pour voir des choses, comprendre qu'est-ce que la Bible nous révèle là-dessus. Aujourd'hui, on va regarder plus le départ de l'Église. Comment est-ce que l'Église a été implantée par le Seigneur? Vous savez que sans que le Seigneur vienne en chair et en os, il n'y en aurait pas eu d'Église. Vous savez que l'Église, ça a commencé après que Jésus soit venu puis qu'il ait commencé son ministère. On fait un survol du démarrage de l'Église par le Seigneur. Voir des événements, des choses, comprendre des choses, comment Jésus marchait, lui, quand il a démarré son Église. La semaine prochaine, on va voir des choses qu'une fois qu'il est mort, comment est-ce que Jésus était avec son Église dans le démarrage de l'Église comme telle après sa mort. Au départ, au temps du Seigneur, l'Église n'était pas encore sur pied. Comme j'ai dit tantôt, Jésus dit, je bâtirai mon Église. C'était quelque chose qui démarrait, il startait l'Église. L'Église, ça n'existait pas malgré le fait qu'il y avait quand même des gens sauvés dans l'Ancien Testament. Mais pas tout le monde, ceux qui marchaient par la foi. Les gens marchaient par la foi d'un Messie qui s'en venait. Nous, on est 2000 ans plus tard, on marche par la foi que le Messie est venu. Mais dans ce temps-là, avant Jésus, même si l'Église n'était pas là, il y avait des gens qui avaient la foi pour être sauvés. Pas tout le monde. C'est pour ça que Jésus a dit à un moment donné, « Vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes entrer dans le royaume de Dieu. » C'est ça. Les gens qui vont entrer dans le royaume étaient tous considérés comme des prophètes, des gens nés de nouveau, des gens qui marchaient avec l'Esprit de Dieu. C'est pas tout le monde. Mais quand Jésus est venu, là, il y a quelque chose qui a commencé. L'Église a été démarrée quand Jésus a commencé son ministère. Il a été baptisé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a précédé Jésus, a prêché la repentance, puis le mettre le foi dans celui qui viendra après Jean-Baptiste. Puis Jésus est venu, puis s'est fait baptiser, puis là, il a été reconnu comme étant le Messie. L'Esprit de Dieu est tombé sur lui comme une colombe, puis Jean-Baptiste avait été averti, « Celui que tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. » Puis ils l'ont vu, c'était témoigné, puis après ça, Jean-Baptiste l'a dit lui-même, il dit, « Faut qu'il croit, c'est que moi je diminue. » Le ministère de Jésus venait de démarrer à son baptême. Il avait environ 30 ans quand il a commencé son ministère. Puis là, il a commencé à prêcher la parole, puis à inviter les premiers qui devaient être ses disciples, qui devaient venir l'accompagner dans son ministère terrestre d'environ 3 ans. Puis c'est ce qu'on voit dans un des versets, dans Luc chapitre 8, le verset 2, ça dit « Les 12 étaient avec lui ». Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie, dite de Magdala, à laquelle était sorti sept démons. L'idée, c'est que quand il a commencé, c'était pas une église, c'était juste un petit groupe d'une douzaine, d'une quinzaine, vingtaine de personnes. Là. C'était une petite église comme ici. On était un petit peu plus que 15-20, mais le point, c'est que des fois, on se dit, oh, non, c'est une petite église. Jésus n'a pas chiolé quand il a commencé. Il avait juste une petite église. Puis il commençait à installer. Il fallait qu'il enseigne des affaires. Parce que n'oublions pas que Jésus, il l'appelait un rabbin. Il l'appelait rabbi, qui veut dire un maître, un enseignant, un professeur. Il est un professeur de la Bible, Jésus. Puis les disciples, le mot, il était appelé disciples, ceux qui suivaient le professeur, c'est le mot disciple, c'est des élèves. Fait que des gens qui se regroupaient autour d'un professeur pour entendre ses enseignements puis suivre ses enseignements, ça existait déjà, ça, ce principe-là, dans le peuple juif. Mais Jésus partait son école à lui, son école rabbinique à lui, avec ses enseignements qui étaient révolutionnaires comparativement aux enseignements des pharisiens puis des sadducéens puis des autres professeurs qu'il y avait dans cette époque-là. Fait que le petit groupe, le petit noyau d'une quinzaine de personnes ont commencé à écouter les enseignements de Jésus. Jésus a commencé à œuvrer d'une manière itinérante, en prêchant dans divers lieux. Par exemple, il enseignait des fois dans la synagogue. Dans Matthieu 9, 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Tu vois que c'était itinérant. Il n'y a pas un endroit fixe. Enseignant dans les synagogues, en prêchant la bonne nouvelle du royaume, puis en guérissant, là, il y avait un ministère de guérison puis de délivrance. En guérissant toute maladie, toute infirmité. Jésus faisait le tour des synagogues. Les synagogues, c'était pas des temples païens avec des statues puis de tout le kit, là. C'était des temples juifs avec des gens qui suivaient déjà la loi de l'Ancien Testament. Les synagogues, c'était comme des églises d'aujourd'hui. Il y avait des enseignants en avant, puis ils faisaient leur réunion, puis c'était normal pour le peuple juif qui croyait en Dieu d'aller dans les synagogues. Il y avait un bâtiment qui s'appelait synagogue dans chaque ville, dans chaque village. Puis les gens allaient à la synagogue le jour du sabbat pour entendre les enseignements de la Bible, des rabbins. Mais Jésus, lui, il se promenait de ville en village d'une manière itinérante, mais il allait dans les synagogues le jour du sabbat puis il prêchait l'enseignement de la Nouvelle Alliance. Il commençait à prêcher l'enseignement révolutionnaire qu'un Messie pour enseigner, parce que là, il venait de se révéler quelque chose là-dedans. Que Jésus, c'était le Messie. Dans le dictionnaire Strong, quand on parle d'une synagogue, là, c'est un assemblée, c'est un lieu de réunion. Comme nous autres, on appelle l'Église, mais en réalité, ça a commencé que c'était le peuple qui était à l'Église, le monde qui est rassemblé, qui est à l'Église, mais ils ont donné le nom Église à Baptiste. Fait qu'ils appellent des Baptistes Église, mais en réalité, le mot Église, ça veut pas dire que c'est la bâtisse, ça veut dire, c'est une assemblée de gens qui ont été choisis à sortir du monde, à sortir hors du monde. C'est une assemblée de gens mis à part par Dieu. C'est ça qui est le véritable sens de l'Église. Parce que tu peux avoir une bâtisse qui s'appelle l'Église remplie de monde qui n'ont pas mis à part pour Dieu. Ça, c'est aujourd'hui quand on pense à l'envers. Mais en réalité, la bâtisse, ça compte pas. Quand tu dis « je vais à l'église, je vais rencontrer les autres qui sont sortis du monde pour suivre Jésus », c'est ça le vrai sens. Mais le mot « synagogue », c'est une assemblée de juifs rassemblés pour prier, écouter la lecture de la Bible, puis les explications des Écritures. Puis cette assemblée-là, elle se tenait à chaque sabbat ou au jour de fête. Plus tard, le nom était transféré à l'assemblée, comme ça portait le nom, la synagogue, ça voulait dire l'assemblée de chrétiens réunis dans un but religieux. Le nom était transféré aux chrétiens, mais originalement, les synagogues, c'était un nom utilisé par les Juifs dans l'Ancien Testament. Puis là, ça a validé que c'est l'immeuble où se tiennent les assemblées de Juifs. Les synagogues, ça semble dater de l'exil de Babylone. Vous savez que le peuple juif, quand il avait été capturé par les Babyloniens, c'était sous Nébuchadnezzar qui était le roi de Babylone, il avait conquéri le peuple juif, puis il avait déporté les juifs à Babylone. Ça a duré 70 ans selon les qui avaient été prophétisés, puis c'est selon que Dieu a permis aux juifs de reprendre le pays. C'est suite à ça que les synagogues ont commencé à se développer. Des lieux où ce que la parole de Dieu était lue, était enseignée, puis en même temps qu'il y avait c'était un lieu de prière, ces bâtiments-là. La même chose qu'une église qu'on a aujourd'hui. Du temps de Jésus et des apôtres, chaque ville de la Palestine, mais aussi chez les gentils, les païens, il y avait des synagogues. Lorsque le nombre de Juifs le permettait. S'il tombait 10, 15, 20, 30 Juifs dans une ville, même si c'était une ville païenne, ils rouvraient une synagogue. C'est la même chose que nous, notre vision, c'est d'ouvrir des églises dans toutes les villes, dans tous les villages. C'est ça qui est le but du développement de l'œuvre de Dieu. Les synagogues servaient également pour juger et infliger des punitions, parce que souvent, le peuple allait à la synagogue pour être jugé. Fait que ça donne un petit résumé, c'est à quoi une synagogue. Mais Jésus allait dans la synagogue déjà, mais quand il a commencé son ministère, il faisait le tour des synagogues dans toutes les autres villes, puis il enseignait la bonne nouvelle, puis il priait pour les malades. Le Seigneur, comme je vous disais tantôt, il n'a pas commencé à aller dans les synagogues juste au début de son ministère. il allait déjà dans les synagogues avant que son ministère commence. Vu qu'il était juif, croyant, Jésus l'a dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Il est venu pour la mettre en pratique, la loi. Il n'a pas péché sur aucun des commandements du Seigneur. Zéro péché. Il est venu pour la mettre en pratique. Fait que lui-ci se réunissait dans la synagogue pour écouter l'enseignement. Mais il était devenu un rabbin. Il était devenu un reconnu qui connaissait la parole de Dieu puis qui enseignait aux autres avant d'être dans son ministère de Messie. Dans Luc 4:16, ça dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Quand il était élevé, c'est quand il grandissait là, dans sa jeunesse, là. De bas âge jusqu'à toute son adolescence, il vivait à Nazareth. Puis là, un moment donné, il était parti faire son ministère ailleurs. Puis un moment donné, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Ça veut dire, comme vous disiez tantôt, c'était une coutume pour les Juifs d'aller à l'église, d'aller à la synagogue. Comme nous, on se dit, faut aller à l'église. C'est pas nouveau. Ça existait de même, la même affaire dans le temps de Jésus pour les Juifs. Pour ceux qui croyaient en Dieu, de se réunir, lire la Bible, prier ensemble, puis chanter des cantiques. Puis ça dit dans le verset, il se leva pour faire la lecture. Ça veut dire qu'il était reconnu comme étant un rabbin, puis il avait le droit d'aller en avant dans la synagogue, même si ça faisait un bout qu'il n'avait pas été, il était quand même un reconnu pour être accepté d'aller en avant, puis de faire la lecture. Puis c'est là qu'il a révélé qu'il était le Messie, en disant, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il venait de lire que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Puis là, il disait qu'il y avait un ministère de guérison, délivrance, de puissance de Dieu qui était pour être en action dans sa vie. Puis le ministère a commencé en lisant le texte. Il dit ça, ça s'est accompli. Puis il a refermé le livre. Puis là, le monde a commencé à rendre témoignage. Puis là, à un moment donné, il y en a un qui s'est élevé un esprit un peu dans l'assemblée. Puis il a chassé l'esprit un peu. Puis là, tout le monde était étonné. Il commande même aux esprits purs à qui ils obéissent. Le témoignage du Messie a commencé à se bâtir suite à cela. Mais, ce que je veux vous amener, c'est comment Jésus a bâti son Église pour qu'on réalise que quand on parle d'Église, c'est pas quelque chose comme un fardeau qui nous est imposé parce qu'on est chrétien. C'est quelque chose qui existait avant même que Jésus soit là. Puis Jésus aussi, il allait dans la synagogue régulièrement. Comme c'est anormal d'aller prendre une fois par semaine, d'aller rencontrer le Seigneur. Mais on dit une fois par semaine, il y allait à tous les sabbats, mais il y avait aussi des heures de prière à 9h le matin puis à 3h de l'après-midi, qui était naturel que le monde allait au temple pour prier. Comme je viens juste de vous mentionner, Jésus aussi, il allait dans le temple pour prier, pas juste dans les synagogues. Parce que le temple, c'est un autre endroit. C'est le temple que Salomon avait bâti, qui avait été démoli un moment donné, puis qui a été reconstruit, puis il a été rafraîchi. Puis tout le monde était super étonné de voir la beauté de ce temple-là. Même ses apôtres ils avaient dit à Jésus, « Quelle pierre, quelle construction! » Puis Jésus lui a dit, « Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ça, c'est arrivé un peu après la mort de Jésus, à l'an 70. Mais tout ça pour... Ouais. Puis là, Jésus aussi allait dans le temple, parce que le temple, devant le temple, c'est un bâtiment un peu plus grand que le nôtre, mais il y avait une grande cour, une grande pièce, là, la cour, où ce que tout le monde s'avançait, puis allait prier. Aujourd'hui, ils vont comme... Elle y appelle ça l'esplanade du temple. Ils pensent que c'est un mur qui pourrait être un des murs du temple. Puis ils restent dans la cour comme le monde, puis ils vont prier en regardant le temple. Mais dans ce temps-là, les Juifs allaient dans les synagogues pour prier, mais allaient aussi au temple, parce que là, au temple, tu pouvais offrir des sacrifices à Dieu. Tu pouvais amener tes offrandes dans la synagogue, mais tu pouvais les amener aussi au temple. Fait que Jésus, il en a parlé du temple qui est dans Marc 11, 17. Il enseignait et disait, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, en parlant du temple. Parce que là, il venait de chasser les vendeurs dans le temple. Puis il dit, ma maison, c'est une maison pour prier. C'est pas une maison pour des trafics de voleurs. Il dit, vous en avez fait une caverne de voleurs. Jésus veut que ces rassemblements, ces lieux de rassemblement servent à le louer, à le prier, à lire la Bible, à recevoir les enseignements. C'est à ça son point. Puis c'est aussi écrit que Jésus y enseignait dans le temple. Il enseignait pas juste dans les synagogues. Fait qu'on voit là-dedans qu'il était quand même un rabbin reconnu. Dans Marc 14, 49, ça dit, « J'étais tous les jours parmi vous enseignant dans le temple et vous m'avez pas saisi. » Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Jésus avait une liberté d'arriver au temple et de commencer à enseigner. C'est un érudit. Ils ont même dit à un moment donné, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? » Jésus n'a pas été s'asseoir au pied d'un autre professeur pour apprendre. Il était au pied de Dieu lui-même. Puis il y avait les révélations qui renversaient les faux raisonnements puis les mauvaises manières de pratiquer la parole de Dieu. Il expliquait la bonne manière, la vraie manière que Dieu veut. C'est un phénomène. Le Seigneur aimait aussi aller dans la nature pour se retirer et prier. Dans son ministère, là, des fois, il pouvait décider qu'hein, on s'en va dans le jardin de Gethsémané, puis on va aller prier là, on va aller louer le Seigneur. Il chantait des cantiques aussi. Il aimait aller dans la nature. C'est ce que la Bible nous dit dans Marc 6, 46. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. On voit qu'il ne priait pas Jésus juste dans la synagogue ou juste dans le temple. Puis même dans ses enseignements, il dit même quand tu rentres chez vous, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, renferme-toi, là, puis va prier. Tu peux prier tout partout. Dans son ministère, Jésus, il enseignait par sa manière d'être. Dans le temple, un chrétien, là, ça va dans le temple, ça va dans la synagogue, ça va dans la chambre, ça va dans les lieux publics ou dans les lieux, pas dans les lieux publics pour être vu en priant debout, puis regardez-moi prier. Ça, il le dit de pas faire ça, il appelle ça des hypocrites. Mais des gens qui le font, mais qui le font en secret. Comme je disais tantôt, son ministère, c'est un ministère d'évangéliste de rue. C'est un apôtre implanteur. Dans Marc 6, 56, ça dit, « En quelque lieu qu'il arriva, dans les villages et dans les villes, dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques, puis on le priait de permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, puis tous ceux qui le touchaient étaient guéris. » Fait que Jésus avait un ministère de rue. Un ministère de rue parce que c'est un apôtre. Jésus, ça le dit même dans un des versets, que Jésus, c'est un apôtre. C'est un envoyé par Dieu pour implanter l'Église. Il démarrait à l'Église. Puis c'est même qu'il a démarré le ministère de l'Église. L'évangélisation des rues partout, puis en priant pour les gens. Mais n'oublions pas que dans chaque endroit où Jésus allait, il était suivi par ses disciples, en plus de tous les auditeurs non convertis. Il était rarement seul. Le monde le suivait. Des fois, il était 5000 personnes qui le suivaient. Puis il a nourri les foules, puis pas juste une fois que c'est arrivé. On connaît au moins deux fois, mais c'est peut-être arrivé en d'autres moments aussi, qu'il a nourri des foules. Il y a eu toutes sortes de miracles, des pêches miraculeuses, parce qu'il a besoin d'argent, ou il va à la pêche, il ramasse un stataire, et pour payer. En tout cas, il a fait toutes sortes de miracles. Lisez le Nouveau Testament, vous allez voir l'enseignement de Jésus, comment c'est extraordinaire. La puissance de Dieu est avec lui, puis il vit. Les gens étaient témoins de quelque chose de spécial, de voir, il dit, nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, en parlant de Dieu fait homme. Il y avait toutes les preuves de dire que Jésus, c'était le Messie promis, Dieu fait homme. Puis là, partout ce qui passait, il arrivait dans les villes, dans les villages, puis même dans les campagnes, puis il faisait du ministère partout. Mais comme je vous disais, il n'était pas tout seul, il était suivi par un groupe de disciples. Dans Marc 2,15, ça dit, « Comme Jésus était à la table de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui puis avec ses disciples, car il était nombreux et il l'avait suivi. » Tu vois qu'il y avait partout où il allait, il attirait foule. Il n'y avait pas un lieu fixe où ce qu'il prêchait, lui, il prêchait où ce qu'il passait. Puis il y avait toujours plein de monde. Ses disciples étaient toujours là, puis les femmes qui étaient là aussi pour subvenir, ça dit dans un autre verset que ces femmes-là, ils étaient en moyen, puis ils aidaient à nourrir le ministère, à financer le ministère de Jésus. Mais il se promenait partout, puis il évangélisait, puis les gens le suivaient, même s'il n'était pas croyant, les gens, ils voulaient chercher à connaître, puis il y en a qui suivaient Jésus juste parce qu'il avait été nourri. Puis là, Jésus lui a dit, suivez-moi pas parce que je vous ai nourri, suivez parce que je vous dis la vérité. C'est le point. Le point, c'est qu'à un moment donné, tu peux suivre Jésus pour ses bénédictions plutôt que de dire tu veux suivre Jésus parce que tu le reconnais comme étant le Messie, puis il sauve ton âme de l'étang de feu. C'était aussi la coutume pour les Juifs de chanter des psaumes pendant les réunions. Quand ils se réunissaient, eux autres, ils chantaient des psaumes. Les psaumes, c'était le recueil de chants de l'époque. Il y avait des chants qui étaient choisis pour chaque fête. Il y avait des chants choisis pour les sabbats. Il y avait des chants choisis dans les synagogues. Puis même Jésus, ça dit que quand il a fait la Sainte Cène avec ses disciples, dans cette dernière Sainte Cène-là, ça dit dans Matthieu 26, le verset 30, après avoir chanté les cantiques, parce qu'il y avait des cantiques pour la fête de Pâques, il se rendit à la montagne des Oliviers, puis c'est là qu'il y a eu une suite là avec des enseignements, mais il y a aussi, ils sont venus saisir, puis en tout cas, tout ça pour dire que chanter des chants lors des réunions, prier des réunions, entendre les enseignements de la parole de Dieu des réunions, c'est normal, c'est Dieu qui a institué ça. Après la mort et la résurrection du Seigneur, suite à son ascension, la première Église utilisait un local plus permanent pour les réunions. C'est après que Jésus soit ressuscité et s'est montré à ses disciples que les disciples ont commencé à utiliser un local plus permanent. Au lieu de faire autant de ministères de rue comme Jésus faisait, ils se sont installés. Dans Acte 1, le verset 12. Ça, là, c'est dans ce verset-là, c'est suite après ce qu'ils ont vu Jésus monter dans les cieux. Quand après qu'il s'est ressuscité, Jésus a parlé avec eux autres pendant 40 jours. La dernière journée, il est monté, puis il est disparu dans le ciel. Puis les anges ont dit, ce Jésus que vous avez vu monter, il va revenir de la même manière que... Là, ils ont vu les anges, la vision de Jésus qui monte. Puis là, les disciples se sont en retournés. Alors, ils se retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, c'est où ce qui était près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Là, ils ont retourné à la chambre haute. C'est une chambre de prière, une salle de prière qu'ils utilisaient, puis... On va voir que dans cette chambre-là, dans le verset, ça nous dit là, il parle de Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Fait que cette chambre haute-là, c'est une réunion de prière. Où ils se tenaient d'ordinaire. Ça veut dire que c'était une place plus permanente qu'il y avait pour prier ensemble en tant que croyants en Jésus, disciples de Jésus. C'était un lieu de rencontre, c'était l'Église. C'est pas le local qui s'est appelé Église, c'est le groupe de croyants qui est dedans qui est l'Église. Rassemblés dans la chambre haute, qui est un lieu normal pour aller prier ensemble entre chrétiens. C'est une salle louée. Tout simplement. Mais elle n'était pas petite, la salle. Vous allez voir, ça le dit. tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Puis il rajoute les autres dont je parlais tantôt, les femmes et Marie, mère de Jésus. Puis là, c'est là qu'on voit que Marie puis ses frères à Jésus ont commencé à suivre Jésus après sa résurrection. Avant, ils disaient que Jésus était fou. Puis après ça, ils ont réalisé après la résurrection, hein, il est vraiment ressuscité. Marie, ça a pris du temps à croire vraiment que l'enfant qui venait du Saint-Esprit, qui était vraiment le Fils de Dieu, elle avait des raisons de croire, mais elle doutait. Elle croyait, mais elle croyait pas. C'est après la résurrection du Seigneur qu'elle était avec les apôtres, puis là, elle priait avec eux autres. Puis avec les frères de Jésus aussi, parce qu'eux autres, ils disaient qu'ils étaient hors de sens. Puis là, ça dit, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, puis le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Là, c'était une belle petite assemblée, une belle petite église, dans la chambre haute, 120 personnes qui prient, qui intercèdent, puis ils se réunissaient tous les jours dans ce temps-là. Puis là, il y avait vu Jésus qui leur avait dit, « Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit va venir sur vous, puis vous allez être mes témoins. » Jésus lui avait dit ça. Attendez à Jérusalem pour que la promesse du Père s'accomplisse. Allez-vous-en pas. Restez là. Attendez de le recevoir. C'est pour ça que là, les 120 sont en prière dans cette chambre haute-là. C'est 10 jours après que Jésus soit monté que l'Esprit est descendu avec puissance. Ça a descendu le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte qui est une fête. Jésus est mort le jour de la fête. La fête de Pâques. Puis la Pentecôte, c'était 40 jours plus tard, puis 50 jours plus tard, parce que Pentecôte veut dire 50. C'est 50 jours après Pâques, puis qu'il y a eu la descente du Saint-Esprit. C'était une fête qui était là, puis c'était des fêtes que tu changes pas la date. Dieu, autrement dit, quand il a institué ces fêtes-là, c'était prévu qu'il ferait ces actions-là, ces journées-là. La mort de Jésus, la journée de Pâques, qui était le sang qui est versé, c'est le cadrage de porte, le sang de Jésus qui est versé, 50 jours pile après, qui était la fête de Pentecôte, qui était la première école, l'Esprit Saint a descendu, il y a 3000 personnes qui se sont converties à Pentecôte. C'est Dieu, il avait tout synchronisé les événements en suivant fidèlement les dates qu'il avait lui-même fixées. C'était pas un hasard. Fait que 10 jours après que Jésus leur a dit, attendez, eux autres priaient dans la chambre haute, puis là, il y a eu une explosion de conversion au Seigneur. Il est à 120, le Saint-Esprit est descendu, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit, ils parlent en langue, le feu est à pogné, le feu du Saint-Esprit. Pierre, il sort sur le perron, puis c'est une chambre haute, ça veut dire c'est un deuxième ou un troisième, c'était plus haut que le sol. Puis il sort sur le perron, puis il y avait une foule dehors, parce que c'était la fête de la Pentecôte. Les Juifs de tous les pays venaient régulièrement chaque année dans cette fête-là. Une fête populaire que les gens se rassemblaient. Ils étaient tous dehors à Jérusalem. Jérusalem, c'était la ville où ce qui fêtait les fêtes, parce que le temple de Dieu était à Jérusalem. Il y avait aussi des synagogues à Jérusalem. Mais le temple est là, le monde se rassemblait, puis il faisait des offrandes au temple. Mais là, il était dehors. Puis quand il y a eu la puissance de l'Esprit de Dieu qui est tombé, les gens criaient là-dedans, en parlant en langue, puis tout le monde parlait en langue. Puis ça dit aussi qu'il y a eu un vent impétueux, un gros vent, quelque chose que tu restes pas, comme c'est pas normal qu'ils vendent dans la maison autant que ça, là. Mais eux autres, c'est au bruit que ça a fait, là, que le monde de dehors sont tous rassemblés sur le perron. Pierre est sorti dehors, il a commencé à prêcher en lui disant, vous avez crucifié Jésus, puis blablabla, mais il est mort pour vous autres. Puis là, les gens, en écoutant, étaient saisis par la puissance de l'Esprit, étaient tombés sur une conviction. Il pleurait, le monde, ça dit, le cœur du peuple, il était vivement touché. Puis ça dit, homme frère, qu'est-ce que ferons-nous? Puis il dit, repentez-vous, puis que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Puis là, il dit, sortez de cette génération perverse. Parce que quand tu t'acceptes Jésus, là, c'est pas juste accepter Jésus. Faut que tu sortes de là, de la génération perverse où ce que t'as deux pieds. Faut que tu prennes position, puis ta vie va changer. Fait qu'il y en a 3000 qui se sont convertis cette journée-là, la journée de Pentecôte. Ben là, le petit chambre haute était rendu un peu serré. Ça dit dans Actes 2, 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, puis en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 hommes. » Wow! Mais, il n'était pas question de laisser ces nouveaux convertis-là les laisser aller seuls dans la nature. Les apôtres les ont gardés regroupés ensemble avec eux. Ils ont organisé des réunions pour les accueillir et pour prendre soin des nouveaux convertis. C'est ça le départ de la nouvelle Église, l'Église du Seigneur. Il y avait parmi eux des gens riches, mais il y avait aussi des pauvres. Dans Actes 6, 1, ça dit, « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. » Parce qu'il y avait différents groupes dans ça, là, des personnes qui venaient de différents milieux. Puis il dit que les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Ça veut dire qu'il y avait un comptoir qui s'était développé dans cette nouvelle église-là pour nourrir les pauvres, prendre soin des veuves, prendre soin de ceux qui avaient de la misère financièrement. Fait que l'église, c'était pas juste une place pour se regrouper. C'est une place aussi qui prend soin des autres. C'est ça, l'Église. C'est de même que ça a démarré, il y a 2000 ans. Ça a été le début de l'Église comme qu'on la connaît aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a différents modèles aujourd'hui, là, de réunions avec différentes visions, mais c'était le début, la première Église avec les premiers apôtres. Ça dit dans la Bible qu'ils se regroupaient puis vivaient en communauté. L'unité, c'était la force de l'Église. Dans Actes 2, 44, ça dit, « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont rassemblés, ils les ont pas laissés aller, puis ils restent ensemble dans le même lieu. Il avait trouvé un endroit où ce qu'ils pouvaient se réunir pour leurs prières, pour les enseignements, pour nourrir les gens. Il s'occupait du monde qui s'ajoutait. Ça dit tous ceux qui avaient la foi, parce que là, ça continue à se développer. Après 3000, t'as rendu à 5000. Le début de l'Église, comme on la connaît, dans Actes 2:42. On met Actes 2:42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, puis dans les prières. Ces gens-là sont pas repartis dans les territoires où ce qu'ils demeuraient. Ils sont restés avec les apôtres, puis ils ont commencé à vivre ensemble comme une immense communauté. Puis là, ils écoutaient les enseignements des apôtres, qui donnent à voir tous les jours. La communion fraternelle, quand on est ensemble, on jase puis tout ça, là, ça c'est une force de l'Église. C'est pour ça qu'on a chanté tantôt, nous sommes un dans un lien d'amour. C'était le but d'ouvrir notre esprit à cette idée-là qu'on est une communauté. On forme qu'un parce que c'est le plan du Seigneur qu'on soit un, comme lui est à un avec son Père. Puis de manger ensemble, fraction du pain, puis à prier ensemble les prières. Les réunions de prière, c'est ça aussi. Là. Le but, c'est que les disciples le faisaient. Puis nous aussi, on est encore des disciples. La même affaire, on devrait le faire. Ils se regroupaient, vivant en communauté. L'unité, c'est la force de l'Église. Dans Actes 2, 44, ça dit, « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, puis il y avait tout en commun. » Il y en a qui vendaient leurs propriétés puis leurs biens, puis ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. La communauté était bien démarrée. Les gens restent ensemble, continuent à se nourrir spirituellement, fraternisant, pour que l'Église, ça soit un solide assemblage. Ça aurait tout un monde là aurait été dispersé, là, ça n'aurait pas été l'Église. Tout cela a été mis sur pied pour accomplir le commandement du Seigneur. Dans Matthieu 28, le verset 19. Le Seigneur l'avait dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Le but, les disciples ont besoin de recevoir les enseignements que Jésus a prescrits. Puis si on est rassemblés, c'est la meilleure place pour partager la même chose que les Juifs faisaient avant même que Jésus ait démarré son ministère. Aller dans les synagogues pour prier, pour chanter, puis pour entendre la lecture, puis aussi entendre les enseignements. Puis Jésus a dit quelque chose d'important dans ce verset-là. « Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est dans son Église. C'est de cette façon-là qu'on participe à cette grande aventure qu'est l'Église. On est là, 2000 ans plus tard, la même chose que l'Église de ce temps-là. N'oublions pas ce que le Seigneur nous a dit dans Matthieu 18, le verset 20. Je finis avec cela. « Car deux ou trois qui sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » La semaine prochaine, on va continuer à voir cet aspect-là, que Jésus était avec son Église, puis qu'est-ce qui s'est produit dans le développement de l'Église. Mais Jésus est ici. On est plus que deux, trois, là. Il a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est ici. Puis il veut qu'on rouvre notre cœur, puis qu'on s'attache à son Église. Qu'on devienne ce solide assemblage, qu'on soit une Église qui soit un, comme Jésus est à un, puis qu'on marche par la foi en continuant à louer et à chanter les louanges du Seigneur, puis en même temps prier, puis en même temps écouter les enseignements qui nous gardent dans la vérité. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci, Seigneur, de toutes ces instructions, de nous rendre ça frais dans notre esprit, pour qu'on puisse avoir une vision claire de comment se préparer ces choses-là, préparer l'Église à son développement, mais comment ça l'a démarré. Seigneur, qu'on ait un cœur pour l'Église, un cœur à vouloir participer avec les autres membres de l'Église, pour qu'on puisse être un, qu'on puisse être comme toi, tu t'attends que l'Église soit. Je te demande de bénir l'Église ici à Beauharnois, ainsi que les églises autour. Donne-nous, Seigneur, tous ensemble, de marcher jusqu'à la fin dans cette foi, puis en gardant le bon témoignage. Bénis ton peuple, bénis tes enfants dans ta présence. Merci d'avoir été là, puis de nous bénir. On te rend grâce en toutes choses, dans le nom de ton Fils, Yeshua. Amen. Amen.